Voilà, merci, merci de votre présence. On va aborder un sujet hyper d'actualité qui va l'être de plus en plus dans notre société dite technocratie, technocratique, avec un paradigme, ce qu'on appelle un paradigme technocratique. Peut-être que le mot, vous ne le connaissez pas. C'est un terme qui appartient à l'enseignement de l'Église, mais qui est d'abord un terme sociologique, c'est-à-dire un équilibre culturel. Notre équilibre culturel, aujourd'hui, il est technocratique. La place des écrans, la place de la technologie, de la technocratie, a pris la première place. Et dans la culture, on pourrait dire mondiale, a pris la place d'un autre référentiel qu'il y avait avant, c'est-à-dire, grosso modo, la recherche du bien, la recherche du bien humaniste, au moins. Et donc, il y a un glissement qui s'opère dans notre société. Ça, c'est pour la thématique transversale. Et puis le moyen de véhiculer cette technocratie, c'est Bibi, c'est le smartphone, c'est l'écran. Et on va essayer de voir en quoi cette technocratie, elle peut poser problème. J'aurais plutôt un regard de vigilance. Bien sûr, la technologie, la technocratie, elle fait des super choses, hein. Mais ça pose question. Donc, ma thèse à moi, que je développe dans deux livres, Hyper connecté et libre, et celui-là, Fascination des nouvelles technologies et transhumanisme. Voilà. Je pense que c'est des sujets qu'il faut vraiment traiter, et maintenant, dès la plus jeune enfance. Voilà. Parce que. Quand on cadre la dérive, on finit par dériver avec le cadre. Et puis, certains d'entre vous font peut-être du bateau, mais si on se trompe d'un degré au départ, à l'arrivée, au lieu d'être aux États-Unis, on finit en Inde. Ouais. Christophe Colomb, il croyait arriver en Inde. Bah, il s'est quand même bien planté. Hein. Mais bon, ça a permis quand même qu'aujourd'hui, toute l'Amérique est chrétienne. Voilà. Comme quoi, le Seigneur fait avec nos égarements aussi de navigation. Alors, je vais d'abord faire une petite introduction pour situer l'enjeu de la réflexion. Vous avez un document qui vous a été donné, ou pour les gens qui viennent d'arriver, il est au fond de la salle. Donc, le processus de décrânisation, le processus de dépendance, après l'antidote est fondamental, c'est-à-dire. Et ensuite, on verra comment se positionner par rapport aux écrans. Voilà. Hein. Moi, je me présente, donc je suis le père Tanguy Marie Pouliquen, je suis prof à plein temps d'éthique à la faculté de théologie de Toulouse, hein, en théologie, en pastorale, en économie aussi. Voilà, écrivain, j'écris une vingtaine de bouquins et je m'occupe actuellement des chefs d'entreprise sur la région. Donc, conseiller spirituel, les équipes Notre-Dame, et puis voilà, on se balade pour faire un petit peu de radio, et on fait, voilà, c'est une vie sympathique. Ma sœur, qui n'est pas forcément très chrétienne, m'a dit, Tanguy, ton boulot, il est quand même sympa, voilà. J'étais quand même content qu'elle arrive à cette synthèse pratique, qu'elle me regarde un peu, me dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Juste avant d'arriver, Providence, je suis arrivé au moment que le Tour de France arrivait. Donc, j'ai filmé l'arrivée du Tour de France, là, qui passait à Lourdes. Et je vais lui dire, qu'est-ce qu'on fait à Lourdes? On prie la Vierge Marie, je vais mettre une photo de la Vierge Marie, et je vais mettre le Tour de France. Et elle va me dire, ah, ton boulot, vraiment sympa, quoi. Voilà, le Seigneur fait des bonnes providences. Voilà. Alors, on va revenir à notre bon sujet, hein, et à la fin, on aura un petit débat questions-réponses pour mettre tout ça en perspective fraternelle, hein. Voilà. Alors, on est donc dans une société technocratique, un paradigme technocratique. Ce thème est abordé au cœur même de la grande encyclique Laudato Si, hein, dans les numéros 106 à 114. Vous avez toute cette thématique du paradigme. Voilà. On sent bien qu'on ne peut pas passer une journée sans voir des écrans. On ne peut pas. Même moi, maintenant, qui suis j'ai un ermitage. Là, je vais partir en ermitage pendant 15 jours, 3 semaines. Bah, depuis 2 ans, maintenant, au cœur de l'ermitage, perdu au fond de l'Auvergne, je connecte parfaitement, quoi. Donc, vous voyez, on a l'impression permanente d'être connecté, même quand on est, bien à genoux pour prier. Et donc, la tentation d'être connecté, alors, ça a des avantages, parce que ça donne de la sécurité aussi, quand on est un peu seul, et qu'on peut tomber de l'échelle quand on va se coucher. Hein, bon, on n'est plus très jeune non plus. Et, ben voilà, à Toulouse, vous vivez normalement. Vous voyez 1000 impacts publicitaires par jour. 1000. J'irais tout écran confondu. Hein. Donc, voilà. Donc ça veut dire qu'on est sous pression, et ça c'est au service de ce qu'on appelle, vous voyez, c'est un deuxième concept clé, société technocratique, paradigme technocratique, un équilibre culturel, on est dans ce qu'on appelle une économie de l'attention. Une économie qui prend votre attention. Voilà. On va prendre votre attention. Et toute la stratégie, ça va être de vous attraper dans votre attention. Parce que les supports publicitaires aujourd'hui sont principalement numériques. Et donc, pour vous faire passer des pubs. Hein. Vous savez, vous connaissez le dicton, hein, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc, vous entendez, c'est gratuit, mais derrière, il y a tout un business model pour vous rendre dépendant sur les grands réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tout ça, c'est formidable. Pour l'instant, je trouve qu'il n'y a que WhatsApp qui échappe à cette logique immédiatement. C'est quand même formidable, WhatsApp, hein, franchement. Alors, vous voyez, une économie de l'attention. Derrière, entendez le mot attention, une personne se construit, il y a des éducateurs ici, une personne va se construire dans la vie, par trois étapes, elle va apprendre à se concentrer, elle va apprendre à être attentif, et elle va apprendre à avoir une intention propre, qui ne soit pas une intention suggérée. Et vous voyez, on est sous input, sous influence, sous voilà, des nudges, vous voyez, ce qu'on appelle des petites intentions, des nudges, qui vont nous orienter. Qui vont mettre en nous des représentations mentales, des images qui, en leur temps, deviendront performatives, c'est-à-dire qu'elles vont orienter notre activité. Dans notre société, on est dans ce qu'on appelle une accélération de l'accélération. Vous voyez, une accélération de l'accélération. Le monde s'accélère. En 30 ans, on a trois révolutions numériques. On a Internet dans les années 90. 2010, la généralisation mondiale du smartphone. 2012, États-Unis. Et maintenant, l'intelligence artificielle. Qui va complètement redistribuer toutes les cartes dans l'économie. Toutes. Pour l'instant, ça fait un an et demi que ChatGPT, Copilot et autres, Gemini, ces moteurs d'intelligence artificielle entrent dans l'économie. Voilà. Ce qui a amené le pape François, il y a 3 semaines, au G7 dans les Pouilles, avec donc tous les grands du monde occidental, à dire alerte, 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 alerte. Bien sûr, on peut faire des bonnes choses. Voilà. Moi, l'autre jour, j'ai essayé, j'ai donné à Gamma.app, c'est une appli d'intelligence artificielle. Je lui ai donné un texte compliqué, de théologie. Et je lui ai dit, fais-moi un PowerPoint. En 2 secondes, le PowerPoint était fait. Un bon PowerPoint. Hein. Quelques erreurs, je vais corriger, mais c'est fait, quoi. Avec photos, tout ce que vous voulez. Un texte compliqué, tac, vous avez un PowerPoint. Donc, il y a une accélération. Vous voyez, c'est une accélération. En soi, c'est pas mauvais. Mais vous comprenez que on est dans un décalage possible entre la vitesse de la technologie et la capacité d'intégrer cette vitesse humainement. C'est la grande thèse de Bergson dans les années 30, dans les deux sources de la morale et de la religion. Il dit, le problème, oui, déjà il y a 100 ans, il y a un décalage structurel entre le progrès de la technique et la capacité humaine de l'intégrer humainement. Donc, d'où l'enjeu de la posture. Et aujourd'hui, ça s'accélère. Personnellement, moi, j'ai fait mes études sans aucun support technologique. Je suis vraiment à deux ans près, je suis la génération qui n'a pas été du tout formée à ça. Mais je vois l'énergie que ça m'a pris, hein, pour essayer de savoir conduire à deux chevaux. Hein. Il faut savoir conduire une deux chevaux, hein, au moins une voiture. Il faut avoir le permis de conduire. Il faut savoir gérer un smartphone, un ordinateur de base, quoi. Alors ça m'a pris de l'énergie. Hein. Donc, respect pour les grands-mères et les arrière-grands-mères qui sont ici, quoi. Hein. Il n'y a pas d'arrière-grand-mère, non. Hein. Voilà, donc une économie de l'attention, une accélération en fait qui est technologique, l'accélération qui est technologique, bah, vous voyez, qui est climatique, hein. Ouais, je veux dire, faut pas se leurrer, hein. Enfin, y a des vrais problèmes climatiques, on peut pas être climato-sceptique, on peut plus. Enfin, moi, je veux bien, vous venez discuter, enfin. On vient de faire les analyses de réchauffement de la planète 2000-2010 plus 0,12, 2010-2020 plus 0,26. Qu'est-ce que ça va être 2020-2030? On est dans la courbe annoncée, comme ça. Et si on atteint plus de 2 degrés par rapport au début de l'ère industrielle, on est déjà à 1 degré, vous aurez 2 milliards de personnes qui ne pourront pas l'été vivre. Enfin, voilà. On parle de l'Afrique centrale, vous avez toute l'Inde et vous avez toute la bordure de la Chine, Est. Bon, des vraies questions. Accélération de la mondialisation, elle en a pris un petit coup après le Covid. Accélération du libéralisme économique avec des questions de pouvoir aujourd'hui des régimes autocrates en conflit avec les régimes démocratiques. Bon, ça, c'est pour montrer que la technocratie, c'est pas les seuls enjeux géopolitiques, sociaux de nos jours. Alors tout ça, c'est porté par des courants philosophiques qui sont quand même assez connotés. Et aujourd'hui, un des courants philosophiques dominants, qu'on appelle le destructionnisme, qui est venu par un Français qui est très peu connu en France, s'appelle Jacques Derrida, qui a fait ses études, qui a fait sa mission universitaire aux États-Unis, hein, parce qu'il ne pouvait pas la faire à l'époque en France, parce qu'il était une personne homosexuelle. Et bon, aujourd'hui, ça change. C'est lui qui avait annoncé le mariage pour tous, etc. Et donc, cette idée-là, c'est de dire qu'il n'y a pas de nature des choses, qu'il n'y a que des singularités, des différences entre les personnes, et il écrit « différence » avec un « a ». Nous sommes tous des hyper-singularités. Mais comment faire vivre ensemble des gens qui sont des hyper-singularités, réfugiés derrière leurs écrans, si ce n'est l'écran qui est leur refuge pour calmer tout le monde? Voilà, il n'y a pas de nature humaine. Et donc ça, c'est un peu inquiétant d'être... Qu'est-ce qui construit? Non, on déconstruit... Mais on a perdu cette notion de loi naturelle, de nature humaine, et peut-être encore plus de grâce. Oui, la personne se construit parce qu'elle a une nature humaine, elle a une base que la grâce accomplit, et avec sa liberté, elle fait ce qui est vraiment bien, et ça la rend vraiment libre. C'est ça le dynamisme de la construction de la personne. Donc on a vu, vous voyez, rapidement une société technocratique, paradigme technocratique, une économie de l'attention, parce que le monde numérique nous a pris la première place. Une accélération de l'accélération. Et ça va pas se décélérer, hein. Ça va s'accélérer. Donc aujourd'hui, les métiers de demain, là j'étais à une conférence avec le PDG de Péchiné, il me dit les métiers de demain, c'est très clair, hein, c'est data scientist. Donc il faut gérer les data du numérique. C'est la question de la transition énergétique. Bah, voilà. Et après, les métiers de la personne. Parce que bon, la société va vieillir. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est les métiers de l'avenir. Mais vous voyez, c'est déjà des métiers un petit peu... Et au moins 50% des métiers, aujourd'hui, vont être bousculés profondément par le numérique et surtout par l'intelligence artificielle. Peut-être que vous n'y allez pas, mais vous avez, les jeunes, maintenant vous pouvez avoir des call girls d'intelligence artificielle. Vous avez votre copine sur Internet. Voilà, elle est super mignonne. Et puis elle vous parle, vous lui parlez, et puis elle se fait des petits frissons, elle vous fait des petits frissons, etc. Et puis si vous payez un peu plus, elle fait plus que des frissons. Voilà. Mais vous voyez, où est-ce que je mets mon attention? Où est-ce que je mets mon cœur? Où est-ce que je mets ma personne? Mais c'est. Maintenant la question qui fâche. Combien de temps chaque jour passez-vous devant un écran? 1 heure, 2 heures? Attendez. En moyenne en France, 10 heures. En moyenne en France, mais pas vous, monsieur. Bah oui, je vous remercie de faire œuvre de représentation collective. Bah oui, c'est 10 heures par. Alors évidemment, tous les écrans confondus, les écrans de travail aussi. Mais vous voyez, c'est-à-dire que 10 heures par jour, c'est-à-dire plus de la moitié du temps éveillé, nous sommes comme ça. Bah vraiment, on est quand même idiots, hein. On est comme ça, ouais. 10 heures par jour, on est comme ça. Est-ce que le bon Dieu nous a fait pour être 10 heures par jour comme ça? D'ailleurs, physiquement, c'est pas très bon, hein. C'est pas très bon pour la santé de ne pas bouger, voilà, pendant autant de temps. Ça fait des capsulites, là, en plus, ça fait mal, là. Et puis ça fatigue beaucoup, hein, les écrans, etc., etc. Voilà. Bon. Alors ça, évidemment, ça concerne personne ici. Combien de fois vous allumez votre smartphone par jour? Combien? C'est ce que j'ai mis. Bravo. 250 fois. C'est la moyenne en France. Non, pas 250 fois. Ça, c'est votre doudou. Vous êtes la nounou et vous faites le toutou. Voilà, ok? C'est ça. Voilà. Et vous le touchez, c'est votre objet de réassurance. Vous le touchez, ça vous donne la sécurité. Vous ne sortirez pas dans la rue parce que là, si on vous attaque, il y a ça. Bon, moi j'étais bien content de l'avoir quand j'ai vu le Tour de France passer. J'ai fait ma petite vidéo et je vais mettre mon petit buzz familial. Là, ils vont me dire, Tanguy, ton métier est sympa, quoi. Voilà. Bon. Alors, moi, ma thèse à moi, ma thèse que c'est que l'avenir du monde dépend de notre posture par rapport aux écrans. Est-ce que c'est nous qui allons aux écrans ou est-ce que c'est les écrans qui viennent vers nous? En soi, aucun problème. Un écran, c'est comme une sacrée, c'est une sacrée création de la personne. C'est formidable. Quand on sait bien conduire une voiture, bah, ça rend vachement service, hein. Si vous roulez au biocarburant, moi maintenant, je mets moitié de biocarburant dans. Voilà. Oh, ça marche bien, les voitures. Elle n'est pas faite pour ça, mais ça marche bien quand même. Ça marche super bien. J'ai fait 10 000 km. Mon impact carbone est diminué par deux, donc c'est pour le moment. Oui, pour le moment. Je vous appellerai. Je ferai une quête dans 2 ans au bord de l'autoroute, tout seul, comme ça. Là. Bon, sous-entendu, vous voyez, notre posture par rapport aux écrans. C'est pour ça qu'on va finir notre intervention par une petite règle. Est-ce que chacun, vous avez votre règle? Parce que s'il n'y a pas de règle, on fait des excès de vitesse. Oh, pas tout de suite, pas tout de suite, là. C'est pédagogique, hein. Mais voilà. Quelle est votre posture? Comment vous faites vos relectures par rapport aux écrans, hein? Un enfant de 6 ans passe, non, de 10 ans passe 2 fois et demie plus de temps devant son écran que devant ses parents, ses éducateurs et ses enfants réunis. Un enfant de 10 ans passe 2 fois et demie plus de temps devant son écran que devant ses parents, éducateurs et amis réunis. Ça veut dire que le lieu de la culture et donc de la transmission des valeurs, aujourd'hui, c'est ça. Et les gens ont très bien compris, hein, ceux qui font les business models, etc. Économie de l'attention, viens mon petit, viens, c'est gratuit. Ça va te détendre. Et pac, on rentre dans ce qu'on appelle, ce que Jacques Ellul, le grand penseur de la techno, de la technique, qui est la référence pour Benoît XVI sur ce sujet, il dit, ben voilà, on rentre dans le filet. Et un poisson, quand il rentre dans un filet de pêche, vous en avez vu beaucoup sortir du filet de pêche? Ils sont bien dans le filet de pêche, parce qu'ils sont portés par le filet de pêche. Ils ont plein de petits amis autour du filet de pêche. Et en regardant par les mailles du filet de pêche, il n'y a plus de danger. Et puis en plus, on est porté par le filet de pêche. La vie est légère. Sauf qu'à la fin, une demi-heure, une heure après, tout le monde est mort dans les cales du chalutier. Donc attention, avec les écrans, spirituellement, nous risquons d'entrer aux urgences, en réanimation vitale. Je ne rigole pas. Je ne rigole pas. Quand j'irai au paradis, le Seigneur m'a dit, est-ce que tu as parlé des écrans? J'ai parlé des écrans. Rentre, bon serviteur. Et il me dira, ici, il n'y a pas d'écran. Ici, il n'y a pas d'écran. Ayons du cran, quittons les écrans. Pas mal quand même, hein? Ayons du cran, quittons les écrans, désécranisons l'existence, etc. Voilà. Parce que on est une personne. Voyez. L'enseignement de l'Église, il est centré en pratique sur la personne humaine. La personne, c'est corps, âme, esprit, relation. Et vous avez un super texte qui est sorti il y a un mois et demi, vraiment, je l'attendais depuis 20 ans, de la doctrine de la foi sur dignitas infinita, la dignité infinie de chaque personne. Et qu'est-ce que ça fait du bien, enfin, de montrer que le magistère au plan éthique, il subordonne tout à la croissance intégrale de chaque personne, de vous. On n'est pas là pour être embrigadé par même des idéologies cathos. Hein? La foi chrétienne, elle est au service de la vie réelle qui réalise la vie dans les singularités pour le bien commun, pour la commune unité des personnes. Donc, quand on est devant un écran, notre corps, il est un petit peu endormi. Notre psychisme, il est complètement capté. Notre esprit, il perd sa profondeur et nos relations deviennent des contacts. Ce qui est beau, c'est de se rencontrer. Oui. Si on vous avait dit, le père Tanguy-Marie, il ne peut pas venir, là, on va faire ça par visioconférence, il y aurait deux personnes, quoi, deux, trois personnes. On est fait pour visage, vous voyez. Jésus, il ne nous a pas envoyé une visioconférence. C'est-à-dire, ouais, salut, je vous ai sauvé, au revoir, salut, je me capte sur Mars maintenant, les gars. Ok. Non, Jésus, il s'incarne. Et le christianisme, c'est de l'incarnation. Et l'incarnation, c'est des relations visage-visage. Le christianisme, c'est un envisagement de l'existence. Oui. Ton visage accueille mon visage, je te touche, je suis proche, je ressens ce que tu vis, je te partage mes émotions, je m'engage avec toi, j'agis avec toi. Voilà. Et bisous câlin. Voilà. Voilà. L'incarnation. Les écrans, c'est la désincarnation. C'est la désincarnation. Voilà. Il n'y a pas d'incarnation. C'est un esprit sans corps. Et sachez que derrière les bagarres aujourd'hui, vous avez d'autres glissements possibles. Oui, le film Avatar, c'est un l'un vu Avatar. Avatar, le premier film, c'est le glissement. Mais après, c'est fini. Hein. On a glissé. On ne revient plus. Après, le premier, c'est quelqu'un qui se sert d'une représentation, d'un avatar, pour agir dans un monde parallèle. Mais dans les numéros 2, 3, 4, 5, c'est fini. Hein. On est dans le monde parallèle. On est dans une forme de métavers. Vous voyez, Facebook a lancé le métavers. Il s'est fait doubler par Microsoft maintenant avec l'intelligence artificielle. Facebook a ralenti le métavers, mais le jour où on va croiser métavers et intelligence artificielle, c'est-à-dire vivre dans un monde parallèle, et il y a déjà, pour l'instant, maintenant, les premiers procès en pénal, parce qu'on s'est bagarré dans un monde parallèle. Et oui, c'est comme ça, parce que la personne que je représente dans le monde parallèle, c'est quand même en lien direct avec moi. Tu m'as tapé dans le monde parallèle, ok? Donc, tu vas aller en prison. Ok, on se calme un peu, on revient sur le réel. Voilà. Donc attention à la déréalisation de l'existence par ce temps passé, cumulé, devant un écran. Conséquences immédiates aujourd'hui. Génération Z, les plus jeunes, quoi. par rapport à la génération d'avant, génération Y. 30% de relations réelles en moins. Ils ont moins de copines. Ils vont moins au cinéma. Ils vont moins se balader dans les drugstores pour faire du shopping. Ils vont moins. 30%. Ils sont où? Ben, ils sont devant leurs écrans. Ils font de la vidéo. Vous voyez, c'est intéressant de voir déjà sociologiquement les conséquences du glissement. Psychiquement. Là, on va commencer à évaluer très concrètement, déjà, il y a pas mal de signaux d'alerte, les conséquences psychiques du Covid sur la génération Y. Nous, personnellement, au monastère, le confinement, c'était le paradis. Hein. C'est génial, on était entre nous, on priait, on prenait du temps, on discutait, on n'était pas pressés. Mais ça a été l'horreur pour les jeunes. Nous, on avait une sœur qui était en formation. Et hop, le Covid. Donc, tout a été fait en vidéo. Une religieuse, vous voyez, elle était toute seule dans sa chambre à Paris, parce qu'elle était en formation à Paris. Mais au bout de 3 mois, au bout de 2 mois, elle n'en pouvait plus. Hein. Donc, ce qu'elle faisait, elle allait sonner à tous les appartements de l'immeuble. Hein, je vous invite, on va faire un apéro, on va faire un truc. Elle n'en pouvait plus. Hein. Et moi, ça m'a réveillé. Je voyais une sœur qui est quand même une fille qui a la niaque, qui a de l'énergie, quand on veut. Ah oui, elle a vécu ça comme ça. Et beaucoup de jeunes l'ont vécu comme ça. Surtout ceux qui étaient seuls. En famille, c'est différent, etc. Bon. Mais peut-être que les parents ont dû supporter leurs ados à la maison. Ben, voilà. Donc, vous voyez, les ados, alors, aux États-Unis, avant le Covid, augmentation de 62% du suicide des filles. Ça reste pas des chiffres extraordinaires, mais ce qui est intéressant, c'est l'augmentation. Depuis la génération du smartphone en 2012, plus 62%, le smartphone, il isole, il déréalise le monde affectif. Les filles sont un peu plus sur les réseaux sociaux que les garçons. Tatatitatata. Vous voyez ? Il y a des indices, il y a des signaux faibles, il y a des signaux qui commencent à être un peu forts, de les écouter, etc. Demain, tout s'accélère avec l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont commencé à tester la puissance de l'intelligence artificielle. Ça marche trop bien. Et en plus, si vous avez un peu de culture, vous pouvez corriger quelques biais, tout ça. Ça marche très, très bien. Ça marche trop bien. Moi, j'ai demandé un cours sur la Trinité. Je me suis dit, ils vont être nuls, quoi. C'était trop bien, quoi. J'ai posé 3 questions, un cours sur la Trinité, les grandes hérésies, patatis, voilà. Implication humaine, c'était bien. Donc, vous voyez, à nouveau, la question, c'est pas tant... il faut pas conduire la voiture parce qu'il peut y avoir des accidents. Non, il faut savoir conduire la voiture. Est-ce qu'il faut savoir, il faut jeter ça, maintenant je vais passer, je vais prendre un sac, et puis vous allez me donner tous vos smartphones, on va faire une prière à la Vierge Marie, tous ensemble à la grotte, et hop, je bazarde le sac dans le gave. Okay, ça pourrait être un effort de retraite, et ça serait une solution. En tout cas, ça aurait un effet pratique, spirituel, pendant quelques jours. Vous allez vous faire engueuler à la maison, bon, je ne sais pas pourquoi. Bon, mais... Et on va venir à ça. Quelles sont vos lignes rouges? Voilà. Est-ce que vous avez des lignes rouges? Bon. Alors, on avance. Maintenant, on va essayer de voir la spirale du problème. Vous avez donc votre petit schéma. Pop, 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 pop. Petit schéma que vous pourrez retrouver, si ça vous intéresse, bien développé dans tout ça, dans ces bouquins. Alors, les écrans au centre. Derrière les écrans, vous mettez puissance de la technologie, fascination de la technologie. Qu'est-ce qui ne scrolle pas son écran, les petites vidéos YouTube, tatati, pour se détendre. Quand on commence, certains, ils y restent longtemps, quoi. Et puis, on ne regarde pas que des marchands de fleurs, on ne regarde pas que Wimbledon. Et puis, voilà, parfois, on est mené par l'ordinateur qui nous emmène sur des choses un petit peu limites, quoi. Voilà. Voilà. Alors, heureusement, par exemple, sur YouTube, si vous faites une autre recherche explicite thématique, ça recadre tout. Pas sur Facebook. Voilà. Moi, j'ai complètement éliminé Facebook. J'ai arrêté Facebook. Trop dangereux. Par contre, YouTube, on a une responsabilité réelle. Il suffit de faire des recherches thématiques et ça vous recadre tout votre historique. C'est honnête. Voilà. Je pense que c'est honnête d'un point de vue. Voilà. Facebook, c'est malhonnête. Parce que c'est trop. Ça, voilà. Ça vous prend par les mauvais sentiments. Voilà. Alors, les écrans au centre, les écrans qui fascinent. Voilà. Qu'est-ce qui mène qui? Est-ce que c'est l'écran qui vous mène ou est-ce que c'est vous qui menez l'écran? Mais oui, il faut quand même avoir de la culture, il faut savoir où est-ce qu'on veut aller. Si, voilà, quel est notre centre? Vous faites une retraite là. Bah, le centre de votre vie, bah, moi, le centre de ma vie, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ ou rien. Le reste, je m'en fous que la terre explose, s'il y a Jésus-Christ, de toute façon, moi, je sais que je vivrai éternellement. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas photo. J'ai pas peur de mourir, c'est pas grave, mes parents vont mourir, tout le monde va mourir. Bon, on va se calmer, pas trop vite, quoi, ok? Mais, j'irai, la vie éternelle, elle est là, elle a commencé. Le premier instant de ma vie éternelle, c'est nous ensemble maintenant. Voilà, ça y est, la vie est belle, elle est belle pour toujours en Jésus-Christ. Bon, le Seigneur nous demande de nous incarner dans l'histoire des hommes pour rejoindre les hommes. Donc, voilà, on va pas quitter ce monde. Alors, on a une responsabilité sociale. Le christianisme est social ou il n'est pas christianisme? Le christianisme, ce n'est pas que du spirituel, il est social. Voilà, et le pape François n'arrête pas de nous le rappeler. Le christianisme, il n'est pas que spirituel, il est social. Il est d'abord spirituel pour être social, c'est-à-dire pour être incarné. Construire les personnes, construire le bien commun, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui est au centre? Et vous voyez, d'un point de vue un peu plus pratique, quelles sont nos valeurs non négociables? Vous voyez, je suis arrivé avec un sac. Dans mon sac, vous avez 1 milliard en billets de 500 euros, en petite coupure. Moi, un jour, j'ai reçu par la poste une enveloppe, il y avait 10 000 euros en billets de 500 euros. Mon père, pour vos œuvres, j'ai soupçonné quand même du blanchiment, hein, un peu d'argent, les petits billets roses, comme ça. Bon, je les ai quand même pris, hein, voilà. Je les ai donnés à mon économe, il était trop content, il était allé à la Banque de France, parce qu'on peut plus les redistribuer. Hein, dans le monde. Il était allé à la Banque de France, ils ont vu, ah, tiens, il y en a encore des billets roses comme ça. Ils ont échangé, etc. Voilà, donc qu'est-ce qui est au centre? Vous voyez, est-ce qu'avec mon milliard d'euros, je vais acheter votre valeur non négociable? Mais oui, qu'est-ce qui est non négociable en vous? Que personne ne peut acheter, personne. Vos enfants, votre mari, voilà. Je sais pas, votre foi, voilà. Et aujourd'hui, on voit bien, comme avec toutes ces inductions, toutes ces représentations, ça rentre en nous et ça, voilà, ça nous bouscule dans ce qui est essentiel en nous. Alors, si on sait bien se positionner, bah, très bien, on va amener l'écran là où il peut avoir du cran. C'est-à-dire, il peut être un support. Il y a des super petites vidéos spirituelles sur Internet, des super chants. Il y a même un site des béatitudes. Oui, voilà, tout est bien, qui peut bien finir. Voilà. Alors qu'est-ce qui est au centre? Voilà. Mais si c'est au centre, les écrans, ben, vous voyez, on est fasciné par le flux des images, des informations. On est emmené à la superficie de nous-mêmes. Et d'une certaine manière, comme on est au contact de l'infini des possibilités. C'est infini, hein. Les vidéos, elles sont quasiment infinies, les images, elles sont infinies, les recherches, infinies. Ben voyez, on est à une forme d'homme-dieu technocratique. Donc, on goûte à cette puissance de l'infini. Mais est-ce que c'est vraiment... Quelle puissance il s'agit? Puissance de service, une puissance qui rapproche de Dieu, qui éloigne de Dieu, qui prend la place de Dieu. Au Canada, Google a été reconnu comme une religion. Parce que, au moins, avec Google, c'est utile, accessible en permanence, ça donne des informations vraies, ça transforme l'existence. Au moins, ce Dieu-là, il marche. Reconnu. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, la question, vous voyez, on est des êtres finis. La seule chose qu'on veut dans notre existence, on veut l'infini. la seule chose qu'on veut. Enfin, on veut quelque chose d'infini, on veut être aimé à l'infini, on veut voir l'infini dans le regard de son mari. Voilà, on veut regarder... Vous voyez ce que je veux dire ? On veut l'infini. On est fini, mais on veut l'infini. Et l'histoire du salut nous a donné la réponse. L'infini s'est fait fini, corporel, personne, providence. Ça s'appelle Jésus-Christ. Moi, j'ai fait 45 pays de voyage, mission, 10 ans en Chine, tout ça. Je vous assure que ça m'a confirmé qu'être catholique, c'est bien. Ah, je l'assure. Hein. Je suis allé voir les bouddhistes, discuter avec des lamas, tout ça, mais pas parce que je me cherchais, mais parce que je voulais être honnête. Je voulais me confronter aux taoïstes, à tout, intellectuellement. Oui, je me rappelle très bien, un jour, un grand maître bouddhiste, il me dit, à la fin d'un mois de rencontre, il me dit, monsieur, pourquoi nous discutons ensemble ? Vous avez tout dans le christianisme. Un grand maître bouddhiste me dit, vous avez tout dans le christianisme. C'est intéressant. J'étais content d'entendre ça. Je trouvais quelqu'un d'honnête, une belle personne, etc. Bon. Voilà. Moi, je suis sûr. Enfin, je me rappelle très bien. Je sors de ce monastère. Là, j'ai une grâce du Seigneur. Je me dis, Tanguy, t'es catholique. Et une grâce de catholicité. Ce que m'a dit mon père spirituel. Il me dit, t'as une grâce de catholicité. Mais derrière, vous voyez, c'est le sens noble de la catholicité au sens qui permet de faire la jonction entre l'universel et le singulier. C'est ça, la catholicité. Et ça, c'est Jésus-Christ. L'universel concret, c'est le Christ. Le sacrement du salut, c'est le Christ. Le sacrement des sacrements, c'est l'our sacramental, c'est le Christ. Voilà. Donc, vous voyez, notre fascination pour devenir homme-dieu, l'infini, où est-ce que nous cherchons l'infini ? Les ados, bah, ils peuvent chercher l'infini dans le frisson, des relations éphémères, affectives, etc. Aujourd'hui, ils cherchent l'infini dans le frisson des écrans. Pas simplement pour regarder des fleurs, hein, je vous assure. Hein. Etc. Voilà. Voilà. Où est-ce que nous cherchons l'infini ? Dans le fini. Si nous ne cherchons pas l'infini dans le fini au bon endroit, nous sommes dans le rapport idolâtrique à l'existence. Et la majorité des gens a un rapport idolâtrique avec les écrans. D'où l'enjeu, ou un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, rarement pas du tout, et d'où l'enjeu de se repositionner, de se dire, attends, moi, là où j'en suis, hein. Comme dit saint François de Sales, si tu ne sais pas d'où tu pars, tu n'iras nulle part. Oui, il y a un réalisme spirituel ou pratique. Si on ne sait pas d'où on part, où on en est, ici par rapport à ces supports-là, ben, on n'ira nulle part. Sous-entendu, on ira à quelque part où c'est nul, quoi. Voilà, aussi. Ouais, je peux dire. Hein. Voilà. Donc, on est fasciné parce qu'il y a de l'infini. La conséquence, c'est que notre esprit est dispersé, parce qu'il est fasciné par cette recherche de puissance. Il y a une perte d'attention, une perte de concentration, une perte. Hein. La génération Z par rapport à la génération Y a perdu 30% d'attention aussi. On a du mal à se concentrer. L'attention devant une pub, c'est 8 secondes pour un ado. 8 secondes. Pas beaucoup, 8 secondes, hein ? Vous voyez, on voit bien toutes les vidéos maintenant se raccourcissent pour attraper l'attention, les phénomènes courts, etc. Vous voyez, ça s'accélère parce que l'attention est en perte de vitesse. La concentration est en perte de vitesse. Donc, il faut attraper l'attention là où elle est encore concentrée. Et tout ça, c'est des signaux qui veulent dire quelque chose de fond, que notre rapport au temps... Vous savez, pour le temps, la philosophie du temps, il y a deux axes dans le temps. Il y a ça et il y a ça. Le temps du chronos. Vous connaissez chronos dans la mythologie grecque. Ça finit mal. Ce qui est chronos, c'est le temps quantitatif. Ça, c'est l'hyper-temps quantitatif. Ça devient chronophage. Et Chronos, dans la mythologie grecque, il finit par manger ses enfants. Le temps chronophage finit par nous manger. Regardez les gens qui travaillent beaucoup, de plus en plus vite, où on leur met de plus en plus de pression. Voilà, le temps les fatigue, le temps chronophage, le burn-out n'est pas loin. Voilà. Donc la question, rapport au travail, rapport au temps, rapport aux écrans, impact sur la personne, perte de concentration, perte d'attention, père d'intention et l'intentionnalité. Saint Thomas d'Aquin dit « Le point de départ d'un acte humain, c'est l'intentionnalité. Vers quoi je tends ? Vers quoi je veux aller ?» Beaucoup de gens ne savent pas où ils veulent aller. Ultimement, voilà. Quelle est votre cause finale ? Quel est votre cap ? Quel est votre phare ? Voilà, c'est intéressant. Merci. Et le kairos, donc c'est le kairos. Le kairos, c'est le surgissement du temps transcendant dans le temps présent. Pour nous, c'est la présence. C'est le temps de Dieu. Accueillir au présent la présence comme un présent. Allez, c'est une manière de parler de ce temps-là. Et la jonction des deux temps, parce qu'il faut être dans le chronos et dans le kairos, c'est la vie sacramentelle, c'est la vie dans la grâce. C'est la vie gracieuse. Pas graisseuse, mais la gracieuse. Voilà. Bon. Donc, attention, une dispersion des esprits qui nous fait perdre et qui nous agite. Les gens sont agités. Quand vous demandez une écoute à quelqu'un, des jeunes, ils ont mais du temps. Ça y est, tu es posé. Tu m'écoutes. Non, pas tu m'entends, tu m'écoutes. Tu m'accueilles. Et oui, tout commence. Le pape François, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit très simple. On doit être dans une conversion pastorale de l'Église, il faut pouvoir se rencontrer. Il faut faire une théologie de la rencontre. Mais pour arriver à la rencontre, regardez. Je te regarde. Je t'accueille. Je t'écoute. Je dialogue avec toi. Je te rencontre. Mais oui. On traverse des épaisseurs. Et aujourd'hui, avec ces écrans, on a l'habitude du clic. Et ça fait clic ou rien. C'est clic ou rien, quoi. Non, le temps, prends le temps. Les choses importantes poussent lentement. Le formateur intellectuel du pape François, c'est Romano Guardini. C'est la polarisation de l'existence, c'est la tension, c'est la poussée. Les choses belles poussent lentement, comme une plante. Métaphysique des plantes de Goethe, voilà, c'est formidable. Les belles choses poussent de l'intérieur vers l'extérieur, se dit Saint-Augustin, de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, donc c'est agité, on est dispersé, attention. Et quand on est, à un niveau, on pourrait dire, un peu extérieur, de nous-mêmes, fasciné, on n'est pas en mode de discernement. On n'est pas en mode de réflexion, on est de plus en plus en mode de réaction. Et tac, tac. Parfois, ça arrive en famille, on fait du ping-pong. Ping, 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 ping. Oui, mais on voit bien que ça porte pas de fruits, quoi, ce genre de ping-pong. Parce qu'on est à un niveau émotionnel. Vous voyez, quand on est qu'au niveau émotionnel, le sentiment. Vous voyez, le sentiment. Quand on est qu'au niveau du sentiment, ça ne construit pas. Oui, la thèse de Jean-Paul II en philosophie, c'était la critique de Max Weber, et il disait, Max Weber dit non, la qualité humaine, c'est lié aux émotions et aux sentiments. Réponse de Jean-Paul II, non. Les sentiments, les émotions sont relatifs aux vertus, à quelque chose de plus profond. Bien sûr, il y a de la couleur, il y a des émotions, c'est très bien. Mais il faut que ça soit vertueux. C'est pour qualifier un acte vertueux. L'émotion en elle-même n'est pas une valeur éthique. Parfois, les gens, ils ont du mal à l'entendre. L'émotion en elle-même n'est pas une valeur éthique. Mais pour qualifier parfaitement une action humaine, il va falloir que la vertu soit qualifiée par une émotion. Ça, c'est autre chose. Mais c'est un autre rapport. Ici, ce que je veux mettre en évidence, c'est que ça réagit. Parce qu'on est un peu à la superficie de soi-même, on réagit. En émotion, on recherche... ça devient un peu dialectique. Dominant-dominé, la conséquence sociale, c'est qu'on a des relations dominant-dominées. Relations à basse fidélité, contact, recherche de rapidité, discussion numérique. Cerveau disponible, toujours utilisé. Refus d'être dominant-dominé, donc c'est plutôt réalité dominant-dominé. Voilà. Refus d'être dominé en dominant. Oui, c'est bon, c'est bon. Et donc, on a un rapport de force. Alors qu'on n'est pas fait pour un rapport de force. On est fait pour un rapport de connaturalité, de proximité, de paix. Clé d'interprétation technicienne, l'écran est le moyen par lequel la personne vénère la technocratie et satisfait aux attentes de la société de consommation qui cherche à uniformiser les besoins et intégrer parfaitement l'homme dans le système technicien. Paradigme technocratique, libéralisme économique, économie numérique, économie de l'attention, système technicien. Filet technicien. Nous faire rentrer dedans pour individualiser au maximum nos consommations, nos comportements. Devant un écran, on est 95% du temps seul, pour maximaliser les achats individuels. Il y a un alignement strict entre anthropologie libérale et consommation libérale et individualisme. Bon. Alors rapidement, l'antidote, parce que le temps avance bien. Ben, l'antidote à l'homme écranisé, c'est à droite, c'est la conscience du bien, conscience de Dieu, qui d'abord reçoit le don de la vie. Ça, c'est un schéma de synthèse pris chez Jean-Paul II. Et le don de la vie, ben, c'est la grâce, c'est la famille, la génération, c'est la société. C'est cette pièce, elle a été construite pour vous accueillir, merci. C'est l'environnement, c'est la création. Actuellement, on est sur une petite bille, la Terre, qui fait du 15 000 km/h autour du Soleil. Tout se passe bien, pas d'excès de vent, vous n'avez pas de vent dans les cheveux, ça va. Hein, on a un équilibre cosmologique et environnemental, mais incroyable. Et tout ça, si ça avait été dû au hasard, certains ont fait un calcul, c'est 10 puissance moins 60, le hasard. Donc 0, et vous mettez 60 zéros. Le hasard est vachement intelligent. Hein. Donc s'il est intelligent, c'est qu'il y a peut-être une intelligence au départ qui est créatrice. C'est un argument pour discuter avec ceux qui veulent discuter. Donc on reçoit, on intègre, on se unifie dans sa singularité. On est unique. Chacun est unique. C'est la bonne nouvelle de la modernité, ça. Chacun est unique. Il doit être respecté. Moi, mes besoins, autodétermination, autopossession, liberté, décision. L'Église ne se substitue pas à la conscience des gens. L'Église est là pour éclairer les consciences. Voilà, en passant. La personne se trouve elle-même trois en se donnant elle-même. Oui, c'est en me donnant gratuitement que je me trouve moi-même. Ça, c'est la thèse de l'anthropologie, de la vision de l'homme du Concile Vatican II. Gaudium et Spes 24.3. La personne se trouve elle-même dans le don gratuit d'elle-même. Quelqu'un qui a réussi sa vie, c'est quelqu'un qui arrive là. C'est ce que veut nous dire l'Église. Qui arrive là et qui évalue la conséquence de ce qu'il ou qu'elle donne dans notre capacité de générer autour de nous de l'unité. Une personne mûre, vraiment mûre, c'est une personne qui se donne gratuitement, le plus gratuitement possible, et qui crée autour d'elle de l'unité. Voilà, c'est ça. Pourquoi ? Parce que Dieu, c'est un en relation. Et comme on doit ressembler au Dieu qui est trinitaire,